Vous écoutez RMC. RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
On commence avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. Une cérémonie commémorative du 11 novembre à l'école. Bonne ou mauvaise idée? Une initiative en hommage à tous les morts pour la France sera mise en place dès la rentrée prochaine dans chaque école élémentaire, collège et lycée. Et pour Barbara Lefebvre, l'enseignante des GG, c'est tout simplement ridicule.
Ce serait bien que les cérémonies pour en mémoire de Samuel Paty et de Dominique Bernard soient respectées. Quand déjà celles-là seront respectées, faites correctement, eh ben peut-être qu'on en fera d'autres pour les morts pour la France. Parce que dans ce cas-là, les morts pour la France, il va falloir que ce soit global, c'est pas que le 11 novembre, c'est une date qui est choisie pour honorer les morts pour la France. Il y a deux enseignants qui sont morts pour la France, c'est Samuel Paty et Dominique Bernard, et à chaque fois, il y a des problèmes lors des journées commémoratives. Donc que Monsieur Macron s'occupe de ça.
Alors, est-ce ridicule ou pas cette cérémonie commémorative du 11 novembre, Fred Hermel?
Non, c'est pas du tout ridicule. Je comprends l'argument de Barbara au sujet de Samuel Paty et Dominique Bernard. Mais non, pas du tout. D'ailleurs, moi, quand j'étais petit, on allait, au 11 novembre, les enfants des écoles, on allait chanter la Marseillaise au monument aux morts. On lisait les noms des morts du village lors des différentes guerres. Voilà, il y a pas mal de gens de ma famille, d'ailleurs. On a beaucoup donné dans la famille à la France. Et voilà, moi, je trouve ça très bien. Et c'était un moment solennel qui était très important. Donc, je trouve ça très bien qu'on fasse ça dans les écoles. Parce que la question, c'est que moi, je fais partie d'une génération qui a connu des gens qui ont connu la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que moi, mon grand-père maternel a connu enfant la Première Guerre mondiale. Donc moi, j'ai eu toutes ces histoires. Mais pour les gens, les nouvelles générations, il y a plus ce contact. Donc il faut rappeler, c'est une manière de continuer à entretenir la mémoire et de parler de l'horreur des guerres et de ce que ça représente, etc. Donc moi, je trouve ça très très bien. C'est une manière dont c'est une histoire.
Pourquoi que le 11 novembre?
Parce que c'est le jour officiel de commémoration en France.
D'accord.
C'est sous Sarkozy, hein, si je dis pas de bêtises, que ça a été décidé de réunir l'hommage aux morts pour la France le 11 novembre.
Ok.
Donc et comme voilà, c'est une date très importante, la plus grande boucherie.
Oui. Ah, on appelait ça. Donc c'est pas que la Première Guerre mondiale.
Non, c'est l'ensemble des guerres, mais c'est le 11 novembre, mais déjà choisi par l'État pour être le moment où on se souvient de tous les morts pour la France. Donc moi je trouve ça très bien. C'est une manière se faire sentir appartenant à un pays, même pour les enfants qui sont d'origine étrangère, puisqu'il y avait des combattants étrangers en Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est aussi une manière d'intégrer tout le monde dans cela. Et puis c'est aussi une manière de faire de l'histoire, quoi, tout simplement.
Voilà, et pour les profs aussi, peut-être faire un cours peut-être particulier ce jour-là. Bonne ou mauvaise idée, Jean-Philippe?
Alors pour moi, très bonne idée. Je suis totalement d'accord avec Fred. Moi, je suis né à quelques kilomètres de Verdun, dans la Meuse, où on a tous souffert. Il y a des villages qui ont été rasés de la carte lors de la Première Guerre. Mais en effet, c'est une date symbolique qui ramène à la Première Guerre. Mais l'idée, c'est justement de rendre hommage à tous les soldats tués, et il y en a encore cette semaine.
Enfin,
y a des gens en ce moment qui sont au combat. On a des militaires français qui tombent chaque mois. Donc il faut absolument, ça fait patrie, je trouve, de penser à ces hommes-là qui défendent nos couleurs, qui défendent notre liberté et la liberté d'autres pays. Donc évidemment que c'est nécessaire. Et je suis totalement d'accord avec Fred de dire, quelles que soient les origines, quelle que soit la nationalité, parce que on a beaucoup parlé des Sénégalais, etc. Ce ne sont pas que les Français qui ont défendu la France et ne sont pas que les Français qui défendent la paix.
Les GG ce matin sur RMC, écrire des cartes postales, est-ce pour vous ringard? Les cartes postales sont plébiscitées quand même par 64% des Français, ce qui ne veut pas dire qu'ils en écrivent. Et parmi ces 64% de Français, il y a Charles Consigny, l'avocat des GG. Écoutez.
La dernière fois que tu en as envoyé une?
Mais là, cet hiver.
Depuis?
Depuis une station de montagne.
Oh.
Mais oui, parce que je trouve que
C'est plus marquant qu'un message WhatsApp.
Voilà, exactement.
C'est sur un
c'est une attention.
C'est une attention
beaucoup plus
mignon.
C'est autre chose effectivement qu'un message WhatsApp. Et donc je trouve que c'est en plus amusant, inattendu. Les gens ne s'y attendent pas, etc. Donc je trouve que c'est sympa.
Alors, est-ce qu'écrire des cartes postales c'est ringard, Pierre Rondeau?
Oh, ringard. Bon, ça va dépendre de la carte postale.
Si on a la belle carte postale avec Tu l'as vu mon ou des choses comme ça, c'est.
Mais qui on voit,
bah, je vois toujours, moi, dans les maisons de la presse bretonne, des cartes postales assez rigolotes. Enfin, rigolotes, oui. Avec beaucoup de guillemets. Non,
oui, oui, je vois, c'est humour tellement beau.
C'est pour
oui,
ça que.
Et à chaque fois, je me dis, s'ils les mettent, c'est qu'il y a des gens qui les achètent.
Bah, il y a Pierre Rondeau,
il y a un public pour ça. Bravo, Pierre.
Je me permets de juger parce que moi, je n'en vois pas de. Je n'en vois pas de carte postale de cet acabit.
Vous n'en envoyez pas du tout, d'ailleurs.
Je pas du tout de carte postale, donc.
Mais à votre mère, Pierre.
Je lui envoie un message WhatsApp, je l'envoie.
Ça n'a rien à voir.
Je l'appelle.
Et la dernière fois que vous avez envoyé une carte postale, c'était quand?
Ah, c'est il y a longtemps.
C'était une carte de vœux, une carte d'anniversaire, une carte de Noël?
Non, même une carte postale de vacances.
C'était en colonie?
Non, mais je devais être étudiant, je crois. Je vais vous raconter ma vie, mais j'étais très amoureux d'une fille et je lui ai envoyé des cartes postales.
Elle vient de la recevoir d'ailleurs.
Ouais.
Et elle a dit non. Elle veut pas.
C'est qui déjà Pierre. Mais oui, je faisais ça. Le côté épistolaire, là.
Ouais. Avec... Ça n'a pas suffi, manifestement.
Manifestement, non.
C'est resté épistolaire.
Je reste dans un échec assez cuisant. Mais
Si vous avez envoyé une carte postale. Vous
avez pas eu le jour.
Oh là là, avec effectivement une femme à moitié nue sur la page.
Ce type de carte postale,
ça n'a pas marché.
Quand vous me demandez est-ce que c'est ridicule, c'est ridicule. Oui. Si c'est une belle carte postale, pourquoi pas, à la rigueur. Moi, je ne le fais pas. Je l'ai fait autrefois quand j'étais étudiant et ça n'a pas porté ses fruits puisque je n'ai pas fini avec cette personne.
Alors, Jean-Philippe Doux, vous avez une librairie et dans cette librairie, je crois que vous vendez des cartes postales.
Exactement.
Ça se vend bien ou pas?
Ben oui, alors c'est vraiment d'actualité puisque hier, on a repassé commande avec mes libraires parce qu'ils me disent, ben, on n'en a plus. On a
C'est des cartes postales de chats.
Alors non, pas que, des cartes postales aussi de la région. Et alors, on a des cartes postales un peu particulières avec de l'herbe à chat à l'intérieur ou de la lavande.
L'herbe à chat.
À 24 euros la carte
Dans la boîte aux lettres, ça va puer l'herbe à chat.
Mais non, ça pue pas l'herbe à chat.
Pourtant, ça attire les chats.
Je ne sais plus combien je les achète d'ailleurs.
Non, pas le prix à laquelle vous l'achetez,
C'est autour de 4 euros, il me semble. Je ne suis pas sûr du tout.
4 euros? En fait, ça fait 24 francs, Jean-Philippe. Enfin,
oui.
26 francs.
Avec le petit timbre Marianne. Non, mais c'est, moi, je trouve ça d'autant plus précieux, la carte postale, qu'on est justement dans une société où tout se fait par WhatsApp, etc. C'est ce temps long, vous savez, où la carte postale arrive. Vous êtes déjà rentré, la carte postale arrive. Et puis, c'est une démarche qui a d'autant plus de valeur que personne ne, enfin, beaucoup moins de gens le font. Avant, il y avait toujours le moment pendant les vacances. Il fallait
spader
les cartes postales. Si je le fais pas, elle va m'en vouloir, etc. Là, maintenant, en fait, c'est une démarche qui est tellement plus belle qu'avant parce que on prend le temps de le faire. On choisit la carte. Alors, comme Pierre, c'est le faire. Et moi, je trouve que c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai une amie, Manu, qui nous écoute peut-être. Elle le fait régulièrement. Et je trouve ça, mais vraiment chouette de le faire. Et je vous le dis, moi, on en vend beaucoup à Aix-en-Provence.
Fred, vous êtes très carte postale.
Oui. Non, malheureusement, je le fais plus, mais je le regrette. Mais ce qui est bien, c'est de retrouver les cartes postales qu'on a reçues, par exemple, et de voir, mon neveu qui a 23 ans, de voir quand il avait écrit Damien, quand il avait 4-5 ans, quoi, voilà, avec le petit truc, voilà, il y a des souvenirs. Et j'ai retrouvé.
Les petits facteurs à toi,
voilà, les trucs comme ça. C'est vrai que je regrette un peu le courrier. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à apprendre l'espagnol à 15 ans, j'avais une correspondante en Argentine. Et donc, ça mettait un mois pour arriver, Et c'était avec vous savez, c'était les enveloppes plus légères, bleu, blanc, rouge par avion.
Et
en fait, c'était merveilleux d'attendre la carte. Et on s'est connus, on avait 40 ans quand je suis allé en Argentine. Et on est toujours amis aujourd'hui. Voilà. On s'est écrit pendant 15 ans avant de se connaître. Non, on était devenus trop amis pour ça, mon cher.
Le Morning RMC ce matin, comment lutter contre l'isolement des seniors en France? 750 000 personnes âgées sont en situation de mort sociale. Et pour lutter contre ça, Tom Gallois, cofondateur de Génération, met en relation les seniors avec des jeunes qui peuvent les aider à domicile. Écoutez.
Les jeunes n'interagissaient pas forcément beaucoup avec les personnes âgées, à part avec leurs grands-parents. Mmh. Et donc, on voulait vraiment créer une plateforme qui puisse donc rassembler ces générations et en plus fournir une aide quotidienne et surtout de la compagnie et de la convivialité. Aide ménagère, aide administrative, aide informatique, ménage, des choses comme ça.
Alors, est-ce que vous trouvez ça bien, Pierre, de mettre en relation finalement des jeunes et des seniors?
Ce qui est une vraie souffrance et une réalité, une triste réalité, c'est la misère sociale de certaines personnes âgées, qui, selon des chiffres, ne parlerait qu'à plus qu'à qui a seulement 3 personnes par an.
C'est tout?
Oui, il y a une vraie misère sociale de la part de certaines personnes âgées qui ne voient plus personne, qui restent enfermées chez eux et qui ne voient personne, qui ne font rien et qui sont totalement exclues de toute forme de vie sociale. Et alors là, voilà, c'est une démarche de temps. C'est un jeune qui vient donner de son temps. Alors, est-ce que c'est bénévole ou rémunéré?
Non, il vient pas donner, c'est rémunéré. Il vient filer un coup de main pour remplir la déclaration d'impôt.
Oui, c'est une relation mercantile. Oui,
mais c'est pas grave si tu aides.
Bah,
mais on est dans un monde où on est obligé de marchander la solidarité.
C'est ça, c'est ce qui m'embête en fait dans la démarche.
Attendez. Je veux bien qu'on fasse les. Non mais Charles, excusez-moi. À 20 ans, on vous aurait dit. Est-ce que tu peux aller à l'EHPAD, donner 3 heures de ton temps pour aider bénévolement? Mais en vrai, tu n'y serais pas allé. Donc en fait.
C'est ça qui est dommage.
Mais peut-être.
Ce qui est dommage, c'est de se dire que j'ai fait un arbitrage entre ne pas y aller parce que je suis pas rémunéré ou y aller parce que j'ai donné mon temps pour une forme d'échange social.
Des vocations qui peuvent naître.
Voilà,
des vocations qui peuvent naître. Mais finalement, c'est bien de parler avec les vieux.
Mais les jeunes aujourd'hui, évidemment, quand t'avais 18 ans, c'est pas le premier truc qui te venait à l'esprit.
Évidemment, mais il y a une vraie crainte.
Faut pas faire peser ça sur les jeunes de 18 ans. En plus, aussi aux gens de 30, 40. 50 ans, de s'occuper des aînés.
Oui, mais
ces aînés qui.
Mais ça peut être un petit boulot aussi. Enfin, je veux dire,
je comprends l'idée de petit boulot et de la relation mercantile et de la rémunération, mais ça dessert quelque peu l'acte en lui-même, qui est un acte social, un acte altruiste, d'aller vers les autres, et en l'occurrence des autres, qui vivent une vraie misère sociale, qui ne voient personne tout au long de l'année.
Mais c'est un peu du gagnant-gagnant, quelque part.
Mais le gagnant-gagnant pourrait être fait aussi sans cette relation forcément mercantile. Le fait qu'il y ait de l'argent dans l'intermédiaire me dérange. Après, on dira que c'est un monde capitaliste et que, de fait, tous les actes sont rémunérés.
Les auxiliaires de vie sont payés.
Mais évidemment, sauf que là, c'est, je sais qu'il y a de la misère sociale, je sais que ces personnes ne voient personne tout au long de l'année, et j'ai envie de donner mon temps, comme le feraient des bénévoles, pour aller vers eux et m'occuper d'eux 3 heures par semaine.
C'est le métier, entre guillemets, de dame de compagnie.
C'est le métier de dame de compagnie, je suis d'accord. Là, ça vient d'une démarche qui va au-delà d'un métier.
On va terminer avec du football et ce match absolument incroyable hier, qualification in extremis de l'Argentine face à l'Égypte. L'Argentine qui a été menée 2-0 jusqu'à la 79e minute et l'Argentine qui a renversé l'Égypte. On réécoute cette fin de match tout de suite sur RMC.
Centre de Messi vers la tête de Lautaro Martinez et le but de Lautaro Martinez, c'est Cristiano Romero finalement.
Lionel Messi devant la surface, le centre de Lionel Messi qui est repoussé par une tête égyptienne. La deuxième tentative, une nouvelle fois déviée, ça revient quasiment sur Lautaro Martinez. Messi la frappe, le but de Lionel Messi. Le centre quand même de Lautaro Martinez, la tête.
Le but.
Qualification de l'Argentine.
Incroyable.
Sûrement, forcément, 3-2 pour l'Argentine.
Ça avait démarré mollement cette Coupe du Monde, mais alors, on a quand même des émotions extraordinaires, Fred Hermel.
Elle est super cette Coupe du Monde.
Ah oui.
Elle est magnifique.
Oui.
Franchement, en plus on va la gagner, donc. Désolé, je vois personne.
Attention à la Norvège.
Oui. Mais...
Moi, c'est mon.
Oui, voilà. La Norvège en finale. La Norvège en finale.
C'est mon petit ticket d'avant la Coupe du Monde.
Je veux bien France Norvège en finale, mais je trouve. Alors hier, je dois dire. Je parlais de ma correspondante argentine, c'est un pays qui me fascine. J'adore l'Argentine, mais je n'aime pas son football, je n'aime pas ses footballeurs.
Ouais.
Voilà. Alors que c'est vraiment un pays que j'aime vraiment beaucoup.
Mais ils se font sortir par la Suisse, c'est pas grave.
Mais voilà. Et donc, hier, en fait, j'étais content de voir l'Argentine peut-être perdre. Puis finalement, quand ils sont qualifiés, je dis non, parce que j'ai quand même envie de les taper en finale.
Voilà.
Moi, j'ai envie d'une victoire, d'une finale France-Argentine, en sachant qu'il y aura.
Faut passer le Maroc et l'Espagne. Hein.
Je suis d'accord. Non, mais dans ma projection.
C'est pas petit,
qu'on aura 2 ou 3 pénalties offerts à Messi contre nous. Voilà. Ça fait partie du jeu. Mais je veux une finale France-Argentine.
Enfin, l'Espagne, c'est pas passé. Hein.
Non, ça va être dur.
On n'a pas un tableau facile.
On n'a pas un tableau facile. On est d'accord. Pardonne-moi, je pense que la France va aller en finale et j'aimerais que ce soit l'Argentine pour qu'on les gagne.
C'est vrai qu'hier, il y avait deux écoles.
Pour qu'on les batte.
Hier, il y avait deux écoles.
J'ai envie de voir la Norvège.
On les aime bien, les Norvégiens.
Mais en fait, je trouve que cette histoire est magnifique.
Quoi qu'il en soit, c'est la Coupe du Monde des retournements de situation. Je trouve ça fou. Et tous ceux qui, comme moi, font partie d'un petit groupe de pronostics, vous savez, on en a beaucoup parlé ici.
Mireille de la Conta, elle se régale.
Le groupe de pronostics, c'est 4 millions de téléchargements d'un MVP.
Oui, voilà. Non, mais ce qui est génial, c'est que dans notre groupe, en fait, au fur et à mesure du match, on se rend compte que celui qui se dit, j'avais bien dit qu'ils allaient se faire taper, en fait, pas du tout. tout. Moi, j'adore les émotions que ça procure. Il n'y a pas eu un match qui s'était déroulé du début à la fin, à part peut-être les matchs de l'équipe de France. Ben ouais. Mais des retournements de situation, c'est incroyable.
Dernier de la Ligue sur mon petit pronostic.
Voilà. Ah bah, c'est Mireille de la Conta qui avait pronostiqué des victoires improbables.
Ou
des matchs nuls.
C'est la beauté de cette compétition, je trouve, vraiment.
Voilà. Pour chaque Rondeau, vous régalez ou pas?
Je me régale, mais là, hier, il y avait deux écoles pour ce match. Il y avait ceux qui voulaient vraiment que l'Argentine sorte, se fasse taper contre l'Égypte et perde en huitième. Ou alors que l'Argentine aille en finale pour tomber contre la France et que la France les tabasse. Ouais. Que nous, Français, là, on tabasse l'Argentine, on gagne 4-0.
D'abord, on ne peut pas dire tabasser. On ne tabasse pas l'Argentine.
C'est une expression footballistique, non, bien évidemment.
Mais ni la France ni l'Argentine ne sont encore en finale. C'est-à-dire que là, on passe deux tours de suite.
Je pense les Allemands, ils regardaient aussi leur tableau en se disant,
ça va finir en Maroc-Norvège, la finale de la Coupe du Monde. Comme ça, on pourra. Et pourquoi pas d'ailleurs, bien sûr.
Maroc-Suisse ou Espagne. Vous savez, l'Espagne, c'est quand même un tout petit peu costaud.
Oui, mais au même titre que la Suisse, au même titre que le Maroc.
En tout cas, c'est une super Coupe du Monde et quand même très ouverte.
Et l'organisation est super parce qu'il faut voir tout ce qu'on se disait avant la Coupe du Monde.
Les stades sont dingues.
Les stades sont pleins. Ils sont super.
On tire des cartons rouges.
Oui,
il y a 2-3
fois aussi. C'est une honte, mais ça, c'est toute une histoire. Dans l'histoire du foot, ça s'est toujours fait.
Mais l'organisation.
Mais c'est le foot.
On a eu des histoires comme
ça. Mussolini en 33.
Excuse-moi, des horreurs arbitrales, il y en a eu dans toutes les Coupes du Monde. Oui, on parle simplement de l'organisation. C'est sans faute.
Évidemment, tu interdis le séjour, les supporters africains, tu mets des places à 5 000 $. Évidemment,
c'est pas vrai.
Bah si, les visas africains,
ils étaient. Mais attends, Pierre, il n'y a pas eu un incident.
Mais oui, tu mets l'ice aussi à Serge la sécurité.
L'ambiance, elle est folle. Super. Voilà, l'ambiance est dingue. Les supporters sont formidables. Les images,
évidemment, ils ont payé leur place 5 000 $.
Mais non, c'est pas vrai.
Ah, d'accord. Donc, en fait, les supporters qui créent. Mais trop con de ce que tu dis.
Je dis simplement.
Ça veut dire qu'en fait, c'est les pauvres. Les pauvres, ils foutent le bordel et les riches, ils se tiennent bien, c'est ça que tu dis?
Je dis pas ça, je dis simplement que le côté très lisse de la Coupe du Monde, bien orchestré, bien organisé.
Mais elle est pas lisse, cette Coupe du Monde.
Assez dans un entre-soi, où il y a beaucoup de supporters, notamment africains, qui n'ont pas obtenu leur visa. Donc mettre en avant la superbe organisation avec surtout.
Parce que t'as pas vu le supporter africain dans cette Coupe du Monde?
Je sais qu'il y a une quinzaine de pays, notamment africains, qui ont vu leur visa refusé. En tout cas, les supporters ont vu leur visa refusé.
Enfin, toutes les équipes avaient leurs supporters, allez
dire aux Haïtiens, allez le dire aux Sénégalais, allez le dire aux Ivoiriens, la diaspora sur place pouvait aller au stade, mais tous ceux qui voulaient faire le déplacement ont vu leur visa refusé. Tout comme le meilleur arbitre africain, somalien, qui a été refusé de séjour.
Enfin, en tout cas, alors là,
mais mettons en avant l'organisation.
Ben non, mais d'accord, mais enfin, en tout cas, pour moi, alors je te dis, moi je trouve que c'est une très belle Coupe du Monde.
C'est une très belle Coupe du Monde.
Effectivement, et il faut rappeler ce que tu as rappelé. Mais aujourd'hui, le spectacle, il est dingo.
Voilà.
Et sur le terrain et en dehors du terrain.
C'est bien mieux que. Excuse-moi, moi je prends beaucoup plus de plaisir cette fois-ci que ce qui s'est passé il y a 4 ans dans un micro-pays, au Qatar.
Excuse-moi, c'est ce qui s'est passé.
Il y avait aussi des stades magnifiques.
Oui, l'ambiance.
Ça s'est joué dans une ville, c'est pas l'ambiance.
Oui, alors.
Là, c'est une vraie Coupe du Monde.
Et l'empreinte carbone, on peut en parler aussi parce que là.
Bon, on fera ça plus tard, là.
Non, mais les déplacements de cette Coupe du Monde, c'est incroyable.
D'accord. Ouais.